Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir de vous avoir non seulement là comme invité ce matin, mais là, c'est-à-dire là, avec moi en studio. Bien sûr, nous respectons les distances, même on a plus qu'un mètre entre nous, on a quasiment deux mètres, hein, là, le studio.
Oui, mais c'est à peu près comme ça, quand je viens dans les studios, il y a... Ça n'a pas beaucoup changé.
Non, c'est une grande table, elle est restée grande.
Voilà.
Et donc on est loin l'un de l'autre, mais on est très très près. C'est très agréable de vous avoir quand même face à moi ce matin. Dany Laferrière, faut-il vous présenter ? Vous êtes écrivain, vous êtes membre de l'Académie française. Je vais donner juste deux titres de livres que vous avez écrits, puisqu'ils viennent tout juste de paraître. L'un a paru en 2015 d'abord au Canada, « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo ». Il vient tout juste de sortir en librairie aux éditions Mémoire d'Encrier en France, et l'autre a paru il y a deux mois à peine, L'exil vaut le voyage, aux éditions Grasset. C'est un livre illustré, c'est un livre écrit et dessiné par vous, par votre main. Vous nous en parlerez tout à l'heure, mais je voudrais qu'on commence par justement le début de ce livre, L'exil vaut le voyage, puisque le livre commence par un hommage à un écrivain haïtien, Jean-Claude Charles, qui est mort en 2008, et qui avait écrit en 1980, c'est vous qui le rapportez dans L'exil vaut le voyage, un livre sur le racisme intitulé Le corps noir. Dany Laferrière, on n'en aura donc jamais fini avec le racisme?
Non, on n'est pas prêt d'en finir aussi, puisque on met très rarement le doigt sur le problème. Actuellement, on parle de racisme dans un rapport entre la police et des Noirs aux États-Unis ou en France, mais je ne crois pas que ce soit le fond du problème. Et le policier blanc et le jeune noir aux États-Unis que je connais bien, c'est j'allais dire le face-à-face final et fatal et entre les deux adversaires, si l'on peut dire, nourri par l'histoire américaine dont la source est l'esclavage. Il y a toujours quelque chose d'historique très fort et dans cette affaire. Mais le policier, il est là, il rencontre des Noirs. Il sait bien qu'il est presque en territoire de guerre. Il est très sensible à la gâchette. Il est là pour réprimer, faire comprendre à ces jeunes noirs un peu insolents, irrespectueux et turbulents et dans son regard peut-être délinquant, et qu'ils ne doivent pas toucher à la machine américaine de progrès, d'économie et de quelque chose comme ça. Mais pourquoi on ne remonte jamais plus haut pour voir? C'est toujours la même chose. Je me souviens, Pasolini avait parlé de quelque chose comme ça par rapport à la police, et où quand l'Italie était très à gauche pour dire que il faudrait bien regarder le carabinieri, enfin le gendarme, et comme fils de prolétaire. Et qu'il est envoyé au front, et littéralement, presque comme chair à canon, pendant que les classes puissantes et se tiennent bien loin de ce qui se passe. Donc c'est ça. Et d'abord, ce serait intéressant de voir comment tout le système se comporte dans cette histoire-là, et comment le racisme traverse toute la colonne vertébrale américaine. Si on monte légèrement plus haut, comment il se fait, et avec le délinquant, qui n'est pas forcément quelqu'un qui a commis des actes de délinquance, c'est simplement de jeunes adolescents qu'on a affichés très rapidement, pour attroupement souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un attroupement aux États-Unis? C'est peut-être une quinzaine de Noirs réunis. Qu'est-ce que c'est qu'une ville aux États-Unis? C'est des centaines de milliers de Blancs réunis. Et c'est ça un attroupement de Blancs. Ça s'appelle une ville. Un attroupement de 15 Noirs, ça s'appelle un attroupement qui pourrait mettre en cause le système. Donc ce policier, il a déjà affiché depuis très longtemps ces jeunes gens. À partir du moment qu'il a un contact physique avec, il n'a qu'à appeler la centrale pour demander s'il n'y a pas un dossier sur ces jeunes garçons. Ces dossiers-là n'ont rien à voir avec des actes criminels. C'est tout simplement dans le cours de la vie d'un jeune adolescent américain noir, il est fiché très rapidement. Il y a une série d'actes d'humiliation de qui sont là pour provoquer ce jeune homme pour qu'il fasse des... Mais tout cela fait partie de ce système, c'est le racisme sanglant. Mais quand on monte plus haut, chez les cadres, et d'ailleurs, il y a un policier qui a parlé tout à l'heure ici, à cette antenne, et puis on trouve une autre forme de racisme, l'isolation. on trouve, c'est-à-dire brusquement, des gens, un noir, il fait partie, il est cadre aussi, il est isolé et sa parole n'est pas entendue. Les questions qu'on discute en public autour d'une table et qui sont d'intérêt général sont discutées la veille au téléphone. Tout est réglé d'avance et lui, il vient, il n'est pas dans le réseau, donc il ne comprend rien. Et même si tout n'est pas contre lui, mais il n'a pas les dossiers et il n'a pas du tout la trame de ce qui se passe sous ses yeux. Mais on peut monter plus haut chez des gens qui ne sont pas racistes du tout, qui sont très riches, qui ne rencontrent jamais de noirs, qui aiment beaucoup Jean-Michel Basquiat d'ailleurs, qui le trouve meilleur que Andy Warhol, et à certains points, qui pensent que Sidney Poitier, on n'a jamais eu d'acteur américain même, peut-être de sa génération plus grand, parce que ils ne rencontrent pas ces gens-là, ces gens noirs. Ils peuvent tenir des discours, ils sont très loin de cela, mais c'est leurs intérêts que le policier blanc défend. Dans la rue, face à face, dans cette guerre, littéralement, on peut appeler ça guerre, puisque ça fait 200 ans que ça dure, et peut-être même plus, il faut compter l'esclavage. Et dans cette guerre où il y a eu beaucoup plus de morts, les Américains ont perdu beaucoup plus de morts noirs que durant la Seconde Guerre mondiale. C'est énorme, ça fait plus de 200 ans que cette guerre continue et qu'on tue. Et qu'on tue au nom de ces gens-là qui sont dans des grands manoirs, qui sont là et qui ne rencontrent jamais. Et ça, tout cela se passe dans les quartiers presque prolétaires. Et qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers-là? Il y a un racisme flamboyant, mais en même temps aussi, c'est avec ces gens-là, c'est entre eux qu'ils se marient, finalement. C'est leur voisinage, ils ont des aspects. Et même ces policiers-là, il n'y a plus de rapport humain entre un policier blanc et un noir quand un riche bourgeois américain qui télécommande, qui détermine cette relation, et un jeune noir américain. Il n'y a plus, il y a un contact sanglant, mais il y a un contact quand même. Il n'y a rien de plus terrible que de ne pas voir son ennemi. Édouard Glissant écrivait à propos de l'esclavage, il dit « L'une des choses les plus terribles, c'est que l'esclave à Saint-Domingue ou en Martinique, Guadeloupe, n'a jamais vu le maître, puisque le maître, le vrai, est resté à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle. Il n'a jamais vu le vrai visage, il n'a vu que des délégués. Donc, même quand, durant la révolution haïtienne, on a dit qu'on a réglé le problème, mais on n'a jamais vu le vrai maître, il ne se déplace pas. Donc il y a quand même aussi, et plus loin encore, moi je crois que la clé du problème aux États-Unis se trouve dans la main de la grande classe moyenne américaine qui croit qu'elle n'est pas raciste parce qu'elle ne commet pas d'actes racistes, parce que ce problème ne le concerne pas, c'est un problème marginal. Alors que, comme je l'ai vu là, le problème traverse toute la colonne vertébrale américaine. Si cette classe moyenne pense que éliminer la question êtes-vous raciste ou pas et considère ça comme un problème tout simplement qu'il faut régler parce qu'il fait atteint à l'économie américaine. Parce que tous ces jeunes noirs auraient pu travailler, et sûrement pour pas beaucoup, et aider à la petite entreprise américaine à être plus florissante. C'est une perte. Vous savez, quand vous perdez beaucoup de gens dans cette guerre-là, vous perdez. Et qui sont ces noirs? Eh bien, c'est eux qui avaient tenu pendant l'esclavage. Toute l'économie, toute la richesse américaine a été faite par ces noirs-là. Et là, on est en train de détruire cette économie, et disons, corporelle, le corps noir dont parle Jean-Claude Charles. C'est-à-dire cette économie du corps, cette énergie, tous ces jeunes gens qui sont humiliés, écrasés, qui n'ont aucun goût pour le travail. Donc c'est quelque chose qui n'est pas capitaliste.
Daniel Laferrière, dans son éloge funèbre, le révérend Al Sharpton s'est adressé à George Floyd et il a dit « Tu as changé le monde ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce qui fait que la mort de George Floyd provoque cette fois autant de réactions? Bon, c'est pas les premières émeutes aux États-Unis suite à des meurtres racistes.
Non, c'est ça qu'il faut dire. Il faut commencer par dire éliminons toutes les premières fois. C'est la première fois qu'on a vu ça. C'est la première fois que ça nous a atteint à ce point. C'est pas vrai, c'est faux. Et puis ça n'a rien à voir avec le côté sanglant de l'affaire. Puisqu'il y a eu des lynchages dans le sud des États-Unis, la grande chanteuse Billie Holiday a chanté Strange Fruit. C'est quoi? Les fruits étranges. Ce sont des noirs pendus dans les grands arbres Magnolia sur la route du sud des États-Unis. Ce sont des fruits étranges. C'est terrible. Quiconque n'a pas entendu Billie Holiday chanter cela ne sait rien de ce que d'une âme blessée. et par cette histoire-là. C'est indicible. Il n'y a que le chant de Billie Holiday qui peut rendre ça. L'événement, ces grands événements, c'est-à-dire une sorte d'émotion presque mondiale, n'a rien à voir avec le fait que ça a été sanglant. Ça a été sanglant cette fois-ci. On a pu voir quelqu'un mourir sous nos yeux, devant nous. Mais le plus grand événement américain a été, disons, et a explosé parce que une femme, avec des lunettes cerclées et un air de jeune femme triste et sérieuse, a refusé de rester debout dans un autobus où une grande partie des sièges étaient vides, mais c'était la place réservée aux Blancs, Rosa Parks, s'est assise et a refusé de se lever parce qu'elle était fatiguée. Aucun dossier. Ce n'était pas un jeune homme noir. Il n'avait pas de passé, on n'a pas cherché à le casser. Parce qu'il faut casser les mâles aux États-Unis, les mâles noirs. Donc Rosa Parks n'a pas de dossier. Et on s'est retrouvé avec cette femme qu'on a arrêtée, qui a, disons, démarré la plus grande explosion, et peut-être la plus forte, celle qui a conduit Martin Luther King à faire son grand discours « I have a dream ». Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit pas quelque chose de sanglant, ni quelque chose de sanglant, ce qui touche, disons, l'émotion humaine.
Vous parlez beaucoup d'écrivains, Dany Laferrière, en permanence. Vos livres se nourrissent d'écrivains et d'autres livres, et en particulier dans L'exil, vos voyages, mais ça a été le cas dans d'autres livres précédents que vous avez écrits. Il est question notamment de James Baldwin. James Baldwin, on le relit, on le lit en ce moment, on le lit depuis ces quelques jours, sous la plume par exemple de votre ami Alain Mabankou, écrivain qui est en ce moment à Los Angeles et qui sur Twitter a écrit « L'Amérique couvre plus que jamais une tumeur raciale. Hashtag George Floyd, mort à l'issue des exactions policières. George Floyd étant la tragique liste des victimes afro-américaines d'une nation qui devrait urgemment donner à lire à sa force publique la prochaine fois le feu de James Baldwin. » Je voudrais qu'on écoute la voix de James Baldwin en 1968 parler de son livre « La prochaine fois le feu ».
James Baldwin a écrit un livre qui s'appelle « La prochaine fois le feu ». Nous lui avons demandé si cette prédiction allait se réaliser aujourd'hui.
J'ai très grand peur que ça déjà commencé d'être réalisé aux États-Unis, et pas uniquement aux États-Unis. Ma jeune âge, entre le désespoir et l'espoir, j'ai beaucoup de confiance dans les jeunes. Mais je ne sais pas s'ils ont assez de force pour y arriver. Et contre eux, il y a toute puissance du monde occidental. Et toutes les habitudes du monde occidental.
Ce qui est très grave avec le racisme, c'est qu'il est très difficile de l'attaquer, car les raisons qui sont données en général ne sont pas raisonnables, ne sont pas rationnelles.
Ça, c'est vrai. La façon dont les gens racistes, ou même pas racistes, les gens qui ne veulent pas penser ces choses-là, n'est-ce pas? Et pour réveiller un tel esprit, c'est presque impossible. Il me semble que finalement que c'est que la vie qui peut le faire. Que la voix humaine n'est pas capable de percer si loin, de faire un tel travail, que les événements de dans une vie fait une espèce de révélation, peut-être, plus ou moins violent même, pour faire comprendre exactement que vous êtes en face d'un être de chair, un être humain, fait de chair comme vous.
Dany Laferrière, dans L'exil vaut le voyage, vous évoquez les bagarres mémorables que vous avez eues avec Baldwin à propos de la question raciale aux États-Unis.
Ah, il faut pas me rendre plus âgé. D'abord, Baldwin, c'est l'un de mes grands écrivains. Il fait partie des 5 écrivains dont le nom commence par B, qui illumine ma vie. Bukowski, Borges, Baldwin, Bulgakov et Bachot. Donc, je n'ai pas que la lettre B dans mon alphabet. Mais c'est un écrivain, c'est une lumière. Et sa voix est importante. Et en ce moment-là, je sais que sur YouTube, on entend sa voix. Ce serait mieux d'entendre aussi, et quand il développe longuement, assurément, calmement, on aurait aimé entendre la voix de Baldwin. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a parlé des jeunes. Baldwin dit les jeunes, il fait confiance aux jeunes, auront-ils la force? C'est extrêmement intéressant parce que ce mot jeune ne peut se retrouver que dans la bouche de Baldwin. Dans la bouche du système américain raciste, le mot est remplacé par le mot délinquant. C'est-à-dire, lui, il voit une jeunesse avide de gloire, de joie, de goût, de travailler, d'énergie créatrice, alors que l'autre voit un jeune délinquant qui menace le pays.
Dany Laferrière est notre invité ce matin. Dany Laferrière, écrivain et académicien, avec qui nous avons commencé à parler au début de cet entretien du racisme. On entendait Émilie Aubry annoncer son émission de demain, L'Esprit Public, Dany Laferrière, en posant la question, le débat est-il le même aux États-Unis et en France? C'est vrai que cette semaine, on a eu des échos avec l'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme qui est mort lors d'une interpellation policière en 2016, et dont une dernière expertise a conclu à la mort par asphyxie due à la pression exercée sur lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'écrivain Abdourahmane Ouaberi qui a écrit dans l'Obs cette semaine, il n'est pas déplacé d'imaginer Adama Traoré en petit frère de George Floyd?
Je ne sais pas, je ne connais pas M. Traoré et je ne connais pas bien la France non plus pour opiner. Par contre, je connais le racisme. Et le racisme peut être différent dans ses sources. Aux États-Unis, c'est une histoire collective, celle de l'esclavage. Et c'est une histoire d'économie aussi. Parce que le vieux rêve de l'homme d'affaires, de l'entrepreneur américain, c'est tout simplement faire travailler des gens gratuitement. Nous connaissons, selon le code napoléonien ou celui de Colbert, et la phrase, l'article, et tout simplement, le nègre est un bien meuble. Donc, chosifier, et pour avoir un meilleur rendement économique. Et c'est ça qui est à la base, qui est derrière tout cela. C'est pour ça, quand on s'attaque uniquement au bras armé, c'est-à-dire le policier blanc que je ne défends pas, je tiens à le dire, parce qu'il y a des gens qui détournent ce qu'on dit généralement, je dis...
On va pas à la racine du problème.
On va pas à la racine du problème du tout. Mais j'ai remarqué que il y a un rapport très serré entre notre rapport avec la Covid-19 et le racisme. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du mal invisible. La personne, le journaliste qui parlait avec James Baldwin. On ne le voit pas. C'est vrai. Et on le sent. On le sent. Et on le sent quand il frappe. C'est pour ça le mal, le rapport entre le policier et le jeune noir ou le noir âgé. Et c'est plus clair pour nous. C'est télévisable. Et c'est là le problème. Ce qui est télévisé cache toute la forêt des événements et des choses horribles qui n'ont pas été télévisées. Et cela est d'autant plus terrible. La seule chose que cela nous apprend, c'est que on comprend le comportement même de la police, c'est-à-dire du chef de la police, c'est-à-dire malgré le fait qu'on voit des choses sous nos yeux, que le monde entier voit, ils continuent à défendre leur comportement. C'est ça qui est terrible. On se dit alors, si quelque chose n'a pas été filmé, il n'y a aucune chance. On peut tuer tout un peuple s'il n'y a pas de caméra. Heureusement, c'est la modernité. Et on peut filmer maintenant et poster soi-même sur YouTube et quand on veut. Mais imaginez toute la longue époque de tout le XXe siècle, et depuis la guerre de sécession où il n'y avait pas de caméra, où l'on ne filmait pas, où l'information venait uniquement de la police. Pour dire comme le Covid, ce mal invisible, on a appelé la Covid, ce mal invisible, parce qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose aussi, on a parlé de distanciation sociale, qu'il faut prendre une distance, que les États-Unis, ou ce soit l'Afrique du Sud, ont appelé l'apartheid, et il faut prendre une distance, nous ne devons pas nous asseoir au même endroit, les contacts ne devraient pas être faits sous un même toit, c'est-à-dire le pays américain. Donc il y a quelque chose qui, et surtout, il y a toujours une obsession d'un vaccin, de quelque chose qui pourrait être inoculé et chez les gens pour extirper le racisme. Mais cela ne se fait pas comme cela si l'on croit que seul le policier blanc est raciste. Cela ne se fera pas si l'on ne remonte pas tout le circuit pour savoir qui a armé ce bras et que l'on voit. Mais pire, là où la question se joue, c'est chez les porteurs sains. C'est-à-dire les gens qui croient qu'ils n'ont pas le racisme, mais qui peuvent le donner, mais que ça ne fait aucun mal pour eux, la grande majorité d'ailleurs. Ce sont des porteurs sains. Pour eux, ils sont pas concernés parce que ils ne rencontrent pas de noirs, parce que ils disent souvent même des choses compassionnelles. Ils sont toujours dans un langage de compassion. Et pauvres gens, ils sont fâchés sur l'affaire de George Floyd parce que ils ont vu quelque chose d'inacceptable, voir quelqu'un mourir devant soi. Mais si cela cache une forêt de gens qui meurent en silence, Cette hypocrisie sociale qu'il faut dénoncer, où les noirs, les blancs, les jaunes sont pris là-dedans. C'est-à-dire, et mettre en exergue uniquement cette affaire-là, ça cache tout. Ça devrait nous donner la possibilité de remonter tout le parcours et c'est là qu'on deviendra et naturellement c'est là qu'on s'attaquera à ce problème. La majorité silencieuse qui ne dit rien, croyant que le racisme ne concerne que les gens qui subissent le racisme et ceux qui le donnent et ceux qui attaquent les autres. Non, ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Quand dans l'avion il y a une bombe en classe économique, la première classe dit toujours la même chose. Ça ne nous concerne pas, c'est en classe économique. Mais la bombe explosera. Et un jour, comme dit notre ami James Baldwin, la prochaine fois, le feu.
Baldwin qui disait la question du racisme, c'est la question de tout le monde, précisément. Alors, est-ce que la littérature, est-ce qu'écrire a une fonction particulière dans cette dénonciation dont vous parlez? Vous avez sans arrêt, depuis des années, écrit, jouer avec les clichés. On se souvient de votre premier texte en 85. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? On se souvient en 93. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Vous cherchiez déjà à provoquer, à faire réagir les consciences. Alors que les livres parlaient de bien d'autres choses que ces propres titres-là.
Oui, à penser la question. Parce que dans cette grenade dans la main du jeune nègre, est-elle une âme ou un fruit? J'ai traversé l'Amérique où j'ai rencontré tout le monde. Enfin, rencontré dans l'imaginaire comme dans la réalité. Autant Andy Warhol que Basquiat, autant Norman Mailer que James Baldwin, autant des musiciens blancs, noirs. Et parce que c'est pas une affaire qui doit être casernée avec les noirs. Ce serait tellement facile de faire d'eux à la fois la maladie et le remède. On peut pas. Est-ce pourquoi dans mes livres et dans ce dernier, et l'exil vaut le voyage, je parle de Victor Hugo autant que d'Ovide, et je parle de
Régent du Charme, de Mailer, de Capote, de Nabokov,
ou d'Edward Hopper aussi, et autant que des peintres haïtiens, de Kees Van Dongen, pour montrer qu'un noir peut parler de tout. Il observe tout le monde, il peut parler de tout. Et quand je parle d'Edward Hopper, je ne parle pas du raciste blanc, je parle du grand peintre de la solitude de New York. Quand je parle de Norman Mailer face à Baldwin, par exemple, je ne parle pas du Norman Mailer blanc, je parle de cet écrivain extrêmement puissant et profondément machiste aussi. C'est plus sur la question des rapports du genre. Et donc, quand je parle de James Baldwin, je ne parle pas uniquement de la question du racisme. Je parle d'un des plus grands stylistes des années 60 aux États-Unis et d'un des hommes les plus intelligents et donc les plus tristes que cette génération d'artistes a porté.
Et c'est aussi pour cette raison, puisque vous englobez le tout, que vous avez choisi Dany Laferrière pour terminer cet entretien, la voix d'une chanteuse noire américaine reprenant un titre célèbre d'un chanteur blanc belge, à savoir Nina Simone chantant Jacques Brel.
Un chanteur blanc belge qui aurait bien aimé être noir parce qu'il a dit cette phrase que j'ai trouvée extraordinaire, de l'élégance d'être nègre.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Peux s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Moi, je t'enfilerai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Les gens qui écoutent devraient réécouter Brel et Nina Simone, ce ne sont pas les mêmes paroles. Ce n'est pas la même référence. Le « Ne me quitte pas » de Nina Simone parle d'autre chose. Et quand elle dit « Il faut oublier », Et quand elle se départit de tout ce qui fait d'elle un être humain, Brel parle de l'amour. Nina Simone parle d'autre chose.
Merci infiniment, Daniela Ferrière, d'être venu ce matin nous dire tout ça. Je suis assez émue d'ailleurs. L'exil vaut le voyage. C'est votre très belle autobiographie romancée et dessinée dans laquelle vous racontez votre enfance à Haïti, la fuite de la dictature à 23 ans pour Montréal, vos plaisirs de lecture, de littérature, la séduction des filles, comment vous êtes devenue écrivain, etc., etc. C'est un très très beau livre. L'exil vaut le voyage chez Grasset et vient tout juste de paraître. Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, ou comment arriver à s'intégrer à la société québécoise, comme vous l'avez fait quand on vient de loin, ça vient de paraître aux éditions Mémoire d'Encrier.